Bonjour à tous et à toutes. Je suis heureux de vous retrouver ce matin. Ça fait quelques semaines que nous étions en vacances. Wayne Grudem est professeur de théologie aux États-Unis, en Floride plus particulièrement. Et je me suis inspiré de lui ce matin pour ce message. Il a écrit plusieurs textes, notamment en théologie systématique. Et ces textes ont été repris aux éditions Excelsis dans un livre qui s'appelle « Construire sur du solide » et qui est très intéressant parce qu'il reprend des bases de la foi chrétienne, intéressant pour construire sa vie. Et pendant l'été, je trouvais opportun de relire des choses essentielles comme la foi, la prière, Dieu, le péché. Ces écrits ont été faits d'une telle manière, tellement composés, qu'on termine tous les thèmes par Christ. Les deux derniers chapitres, c'est Jésus. Et je me suis fortement inspiré des écrits de Wayne Grudem pour parler ce matin, comme je l'ai fait au mois de juillet d'ailleurs. Donc vous retrouverez à la fois le plan et aussi certains développements qu'il donne dans ce résumé ici. Donc ne soyez pas étonnés. Wayne Grudem a dit « Jésus-Christ était pleinement Dieu et pleinement homme en une seule personne » et il le sera éternellement. Christ est le centre de notre espérance. Il est celui par lequel et pour lequel nous sommes assemblés en ce lieu ce matin. Sans Christ, il n'y a pas lieu de s'assembler. Notre foi est vaine et sans espérance. Il me semblait important donc de considérer la personne de Christ qui concentre en lui le salut. Au mois de juillet, pour ceux qui étaient présents, nous nous sommes concentrés sur l'humanité de Christ, sur la première partie de ce que nous dit Wayne Grudem, Jésus-Christ était pleinement homme. Et nous avons considéré donc cette humanité de Christ au travers de trois aspects. Jésus-Christ était pleinement homme, Jésus-Christ était pleinement homme comme nous, Jésus-Christ était pleinement homme mais sans péché, Jésus n'a jamais péché de toute sa vie. Et nous avons mis cela avec un troisième point qui nous dit il était nécessaire que Jésus soit pleinement homme pour nous sauver. Il était nécessaire que Jésus vienne comme un homme, à l'état de serviteur obéissant pour nous sauver. Et ce matin, je voudrais me concentrer sur le deuxième aspect. Jésus-Christ est aussi et éternellement pleinement Dieu. Et je vous invite à prendre vos Bibles. Et nous allons lire dans l'Évangile de Jean, au premier chapitre, des versets 1 à 18. Donc, Évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 18. Ce passage est celui que nous avons déjà lu au mois de juillet et qui nous sert de lien pour les deux messages. Parce que nous retrouvons dans ce passage, on pourrait dire, ces deux attributs. Jésus-Christ pleinement Dieu et pleinement homme. Jean nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. » Afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Le passage que nous venons de lire se trouve dans l'évangile de Jean, et c'est même l'introduction de cet évangile. Nous avons vu au mois de juillet que dans le Nouveau Testament, le terme évangile ne désigne pas le livre, mais le message. D'ailleurs, en Marc, il nous est dit « commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Donc littéralement, « évangile » veut dire « bonne nouvelle », la bonne nouvelle qui parle de la vie de Jésus. Comme le fait comprendre l'apôtre Paul, l'évangile est une révélation de la grâce de Dieu envers l'homme pécheur. C'est la révélation de Christ. L'intention de Jean est aussi celle des trois autres évangiles. Jean nous dit en Jean 20, verset 31, « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Chacun des quatre évangiles a un caractère qui le définit et en fait ressortir un aspect de la personne de Christ. Jean vise surtout à présenter Jésus, et nous l'avons vu dans notre passage, comme la parole divine, cette parole qui s'est incarnée et qui nous a révélé le Père. Alors bien évidemment, chacun des quatre évangiles ne sont pas exclusifs dans leur approche de Jésus, mais font ressortir un aspect de sa personne et la mettent en lumière dans leurs écrits. Dans ce passage qui introduit son évangile, comme dans la première épître de Jean d'ailleurs, Jean insiste sur cette notion de Christ comme la parole qui était au commencement avec Dieu, mais également cette parole qui s'est incarnée, cette parole qui était pleinement Dieu et qui est devenue pleinement homme. Ce passage nous fait prendre d'ailleurs de la hauteur. Il nous fait considérer Christ dans une dimension éternelle et divine et dans une dimension incarnée, dans la chair. Éternel parce que cette parole était avec Dieu, nous l'avons vu la dernière fois. Éternel parce que c'est par cette parole que toute chose a été créée. Éternel parce que cette parole est la vie et donc la lumière des hommes, mais aussi incarnée. Incarnée parce que cette parole est dans le monde et qu'elle éclaire tous les hommes. Incarnée parce que cette parole, d'un côté, a été rejetée par les siens, mais d'un autre côté, elle a été reçue par certains. Incarnée parce que cette parole a été manifestée aux hommes en devenant homme, en se faisant chair au travers de Christ, et elle a vécu parmi les hommes. Nous avons donc ici, dans ce passage, ces deux aspects, incarné et éternel et divin. Et ce matin, je vous invite, à la manière de Wayne Grudem, à voir la divinité de Christ au travers de deux aspects. Jésus-Christ est pleinement Dieu. Et il n'y a aucun doute là-dessus. Et il était nécessaire, tout comme Jésus, il était nécessaire qu'il soit pleinement homme pour notre salut, il était aussi nécessaire qu'il soit pleinement Dieu. Jésus-Christ est pleinement Dieu. Jamais quelqu'un n'a cristallisé les passions et les oppositions, les contradictions, comme l'a été Jésus. Certains s'opposent en disant, si Jésus était un homme, comme nous, alors comment a-t-il pu vivre toute sa vie sans péché? Comment a-t-il pu faire autant de miracles dans un laps de temps aussi court et des miracles aussi fabuleux que la résurrection? D'autres pensent peut-être que Jésus est effectivement un homme, mais un simple homme, tout au plus un prophète qui a marqué son temps, mais pas un Dieu, encore moins Dieu lui-même, son égal. La Bible et le Nouveau Testament en particulier nous fait considérer que Jésus est comme Dieu. Déjà, le terme « fils de Dieu » désigne celui qui est de Dieu et qui est venu dans le monde. Le passage que nous avons lu ce matin nous montre la dimension divine de Jésus-Christ. Et c'est par cela que Jean commence. Il commence par nous faire considérer la nature divine de Christ. Au commencement était celui qui était la parole de Dieu. Il était avec Dieu et il était lui-même Dieu. Jean nous révèle que Jésus est la parole de Dieu et il va au commencement de toute chose. Avant que tout ait été créé, Jésus-Christ était. Celle par laquelle toutes choses ont été créées, il était avec Dieu. Ces paroles nous révèlent que Jésus était là, au commencement de toutes choses. Il n'était d'ailleurs pas seulement là comme spectateur éternel, mais comme Dieu lui-même, acteur, étant même celui par qui toutes choses ont été créées, étant lui-même parole de Dieu. Et Jean termine sa phrase en disant « Il était lui-même Dieu ». Et ici, en grec, c'est « théos ». Théos qui signifie justement « divinité », mais spécialement « suprême divinité »,« suprême autorité », celui qui est au-dessus. Jean donne le même qualificatif à Jésus, cette parole de Dieu, qu'à Dieu lui-même. Paul dira « Le Christ, dans son humanité, est au-dessus de tout. Il est Dieu béni pour toujours. » Il est Dieu béni pour toujours, Romains 9, verset 5. Alors on trouve également dans le Nouveau Testament des exemples où Jésus est appelé le Seigneur, mais le Seigneur au sens fort, c'est-à-dire l'attribut de Dieu lui-même. Dès la naissance de Jésus, d'ailleurs dès sa naissance, ce terme lui est attribué. En Luc 2, verset 11, l'ange s'adresse au berger en disant « Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David, c'est lui le Messie, le Seigneur. » Et le Seigneur ici, c'est « Kurios », qui vient du terme « kuros » qui veut dire « suprématie », qui signifie « Dieu, maître, celui en qui tout appartient ». L'ange annonce au berger la naissance du Sauveur, Jésus-Christ, le Messie, mais aussi le Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur Dieu lui-même. Et si la parole de Dieu nous dit que Jésus est Dieu lui-même, Jésus aussi s'identifie au Seigneur Dieu. Un passage intéressant se trouve en Luc 2, vous pouvez le suivre si vous voulez dans vos Bibles, Luc chapitre 2, versets 41 à 46. Et ce passage est fort intéressant pour nous faire considérer le caractère divin de Christ. Jésus-Christ voulait faire comprendre à ses auditeurs qu'il était fils de Dieu. Luc chapitre 2, verset 41, Jésus nous est dit « Comme les pharisiens se trouvaient rassemblés là, Jésus les interrogea à son tour. » Les pharisiens étaient là pour essayer de le contredire, et Jésus, à son tour, va leur poser une question. « Quelle est votre opinion au sujet du Messie ?» leur dit-il. « D'après vous, de qui descend-il » Et les pharisiens, les docteurs de la loi qui sont là, présents, de manière toute naturelle, disent ben, « De David !» Mais alors, comment se fait-il que David qui a prophétisé, et nous avons ses paroles dans l'Ancien Testament, parlant sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, dit-il, l'appelle-t-il Seigneur ? En effet, il déclare, le Seigneur, c'est-à-dire Dieu, a dit à mon Seigneur, c'est-à-dire à Christ, viens siéger à ma droite. David avait prophétisé cela. Jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis sous tes pieds. Si donc David l'appelle son Seigneur, comment est-il possible que le Messie soit son descendant ? Nul ne fut capable de lui donner un mot de réponse. Et à partir de ce jour-là, personne n'osa plus lui poser cette question. La question de Jésus est « De qui le Christ est-il le Fils ?» Et le Sauveur adresse une question dont le but était de leur faire considérer que Jésus était vraiment, non pas un Messie tel qu'ils pouvaient le considérer, c'est-à-dire un roi politique et terrestre qui venait pour siéger ou les délivrer d'une manière toute humaine, simplement terrestre. Finalement, Jésus leur demande « Quelle est votre opinion sur le Messie que vous attendez ? De qui doit-il être le descendant, à votre avis ?» Et les pharisiens et les docteurs de la loi répondent sans hésiter, conformément d'ailleurs aux prophéties qu'ils connaissent bien, fils de David. Et c'est bien là, d'ailleurs, l'enseignement du Nouveau Testament. Dans Matthieu, il nous est dit que Jésus est fils de David. Mais Jésus ne contredit pas cela. Jésus veut leur faire comprendre qu'il n'est pas simplement descendant de David au sens de la chair. Jésus leur dit, si le Messie est seulement le fils de David, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il aussi Seigneur ? C'est-à-dire Dieu. En effet, David, sous la puissance de l'Esprit, appelle son propre fils, celui qui doit venir après lui, son Seigneur, ce qui montre qu'il est plus que de la lignée de David. Puisque David, sous l'inspiration de l'Esprit, donne au Messie un titre divin, et il rappelle même une parole de Dieu en disant « Assis-toi à ma droite », c'est-à-dire « Prends part à ma puissance et à ma domination », comment le Messie ne serait-il que le descendant de David, selon la chair ? Une telle question devait élever la pensée de ses auditeurs. L'idée d'un Messie tout bonnement roi politique et terrestre, comme il l'attendait, c'est pas cela que Jésus voulait leur faire comprendre. Elle devait les amener, cette question, à reconnaître la nature divine de Jésus. Jésus-Christ, fils de Dieu. Cette nature divine de Jésus, elle est proclamée dans les révélations prophétiques. Ces révélations, que si les pharisiens et les docteurs de la loi avaient voulu regarder, ils l'auraient compris et l'auraient vu. Je vous lis par exemple Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe 9, verset 5, Ésaïe a prophétisé sur la naissance de Jésus bien des siècles avant en ces termes. Pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père éternel, Prince de paix. Il éteindra sans fin, il étendra sa fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Jésus-Christ, le Messie annoncé, descendant de David selon la chair et selon l'esprit, il nous est donné de comprendre qu'il est fils de Dieu, qui vient de Dieu. Si les pharisiens avaient compris que le Messie n'était pas simplement comme ils pensaient, celui qui devenait à la suite de David rétablir le trône éternel, ils n'auraient pas cherché à le condamner comme blasphémateur. D'ailleurs, ils auraient compris les paroles de Jésus quand il dit « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent et moi aussi je suis à l'œuvre comme mon Père ». Mais au contraire, cette remarque fut encore une raison de plus pour chercher à faire mourir Jésus. Et pourquoi ? Parce que justement, encore une fois, Jésus appelait Dieu son propre Père et se faisait ainsi l'égal de Dieu. Verset 5, c'est Jean 5, verset 18. Jésus est le Messie, le Seigneur, le Fils de Dieu. Enfin, d'autres passages nous parlent de la divinité de Jésus-Christ. Quand Jésus dit à ses adversaires juifs qu'Abraham avait vu venir son jour, c'est-à-dire qu'Abraham avait vu venir le jour de Christ, en Jean 8, 56, les responsables juifs lui dirent « Mais tu n'as même pas 50 ans et tu prétends avoir vu Abraham ? » Est-ce que vous savez ce que Jésus déclara ? Jésus déclare à ses responsables qui sont là « Vraiment, je vous l'assure, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis. » Et le « je suis » d'ici, c'est le même « je suis » que Moïse donnera, que Dieu donnera à Moïse, pardon, lorsqu'il s'adresse à lui en disant « Je suis Dieu, je suis celui qui est. » Alors je terminerai cette première partie, Jésus-Christ est lui-même Dieu, en reprenant ces versets de l'Épître aux Hébreux, qui disent de manière solennelle ce que Jésus est. Maintenant, dans ces derniers jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. C'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu. Il est l'expression parfaite de son être. Il soutient toute chose par sa parole puissante. Et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. Il a ainsi acquis un rang bien plus éminent que celui des anges, dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur au leur. Jésus-Christ était pleinement homme, il est pleinement Dieu, et il était nécessaire pour notre salut que Jésus soit à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. Jésus-Christ était de condition divine, et il n'a pas regardé à sa condition, et il est venu à la manière d'un serviteur obéissant pour mourir à la croix. Et il était nécessaire que Jésus soit pleinement homme pour nous sauver, nous l'avons vu la dernière fois. Nous l'avons vu la dernière fois en ces termes. Alors je prends juste trois points que nous avons vus pour faire le lien. En effet, Dieu qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils à participer à sa gloire. Et pour cela, il fallait que quelqu'un leur ouvre le chemin du salut. Ce quelqu'un, c'est Christ qui a ouvert ce chemin. Et la suite du livre aux Hébreux nous dit la manière dont Dieu a voulu conduire beaucoup à participer à sa gloire. Il convenait à Dieu pour cela d'élever à la perfection par les souffrances celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut. Il plut à Dieu que ce soit par la souffrance de Christ que le chemin du salut soit ouvert. Il convenait que ce soit de cette manière-là, par la souffrance, puisque c'est Dieu lui-même qui l'a voulu dans son insondable sagesse. Il fallait donc que Jésus devienne un homme, qu'il prenne notre place, obéisse à notre place en souffrant beaucoup. Si Jésus n'avait pas été un homme, il n'aurait pas pu nous représenter, souffrir et mourir à notre place, subir la peine que nous méritions. Nous avons vu également la dernière fois qu'il fallait qu'il soit un homme afin d'être un souverain sacrificateur. Alors je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est un sujet difficile, nous l'avons vu de manière plus complète la dernière fois, mais il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères, nous dit la parole, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Simplement, désormais, nous avons un plein accès auprès du Père par lui. Il est notre souverain sacrificateur, celui qui fait le lien avec le Père et qui nous a réconciliés avec lui en expiant nos fautes par son sang versé à la croix. Enfin, nous avons vu que Jésus-Christ devait être pleinement un homme afin d'être en tout point un exemple pour celui qui croit, afin de lui ressembler. Et il était nécessaire que Jésus soit pleinement un homme pour cela. Vous savez, les évangiles sont très concrets. Ils nous parlent de ce que Jésus était, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, si vous lisez la première épître de Jean, il nous fait considérer cette réalité si importante. Notre foi ne repose pas sur un idéal, sur une idée, sur une pensée philosophique, sur une démonstration de quoi que ce soit. Elle repose sur la réalité de la vie de Jésus incarnée en tant qu'homme. Notre foi repose sur la vie de Jésus, homme. Eh bien, s'il était nécessaire que Jésus soit pleinement un homme pour ces points que nous avons vus la dernière fois, sans commettre de faute, il était aussi nécessaire que Jésus soit pleinement Dieu. Et la parole de Dieu fait ce constat saisissant et sans appel au sujet de l'humanité. Romains 3 nous dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Seul dans le monde, l'homme n'a aucun espoir de justification, étant dans le péché et ne peut pas retrouver l'état dans lequel il était avant la chute, c'est-à-dire vivre dans la présence de Dieu. Mais il y a une réalité. Il y a une réalité en Dieu, c'est que Dieu nous aime. Et Dieu nous aime et il a plu à Dieu de nous sauver du péché et de la mort, nous l'avons vu tout à l'heure. Mais cela ne pouvait pas se faire au travers de ce qui se trouve dans le monde, puisque nous avons vu qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Donc c'est de Dieu et par Dieu que le salut pouvait venir. Et il est venu par Christ, son Fils, afin de restaurer par lui cet état dans lequel l'homme est appelé à être et à vivre. Et vous connaissez ces versets, et je crois que même les plus jeunes l'ont appris, Jean 3, 16 et 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu a envoyé son Fils Jésus, qui était de condition divine, afin de nous donner accès à la vie en lui pour celui qui croit, qui place sa confiance en Jésus. Jésus-Christ concentre à lui donc le centre de notre espérance. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Il n'y a pas une deuxième route, un deuxième chemin, un deuxième nom, parce qu'il n'y en a pas sur la terre. La parole de Dieu est claire à ce sujet. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le salut ne pouvait venir que de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, lui qui était de condition divine, afin d'être sauvé par lui. Et il fallait donc que Jésus soit aussi Dieu. Seul un Dieu infini pouvait porter les péchés de tous ceux qui croiraient en lui. Et cela est tout aussi important qu'il fallait que Jésus soit aussi pleinement un homme pour accomplir cela. Et c'est toute la complexité, mais aussi le côté puissant de Jésus-Christ, à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. Personne n'était capable d'accomplir ce que Jésus a pu accomplir. Et tout le message de l'Écriture tend à montrer qu'aucun être humain, aucune créature n'aurait jamais pu sauver l'homme. Dieu seul, par Jésus-Christ, pouvait le réaliser. En somme, il fallait que Jésus soit à la fois pleinement homme et pleinement Dieu pour que le salut soit effectif, c'est-à-dire que cette réalité soit incontestable, incontestée, produise un effet irrémédiable, réel, puissant, tangible pour l'humanité. Jésus-Christ est pleinement Dieu, Fils de Dieu. Il est aujourd'hui à la droite du trône de Dieu et règne. Jean nous dira aussi, dans le dernier verset de son passage que nous avons lu ce matin, au verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père nous l'a révélé. » Le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père nous l'a révélé. Il fallait quelqu'un qui soit non seulement pleinement homme, mais aussi vraiment et pleinement Dieu, à la fois pour nous ramener au Père, nous l'avons vu, mais aussi pour nous révéler plus clairement le Père. Et c'est ce que nous dit Jean. Jean nous dit que le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, c'est lui qui nous a révélé le Père, qui nous l'a fait connaître. Qui mieux que le Fils de Dieu pour nous révéler, nous faire connaître le Père. C'est précisément ce que Jésus veut faire comprendre à ses disciples, notamment lorsqu'il l'interroge. Quand Philippe demande à Jésus de lui montrer le Père, « Montre-nous le Père », Jean 14, verset 8. Jésus répond, « Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ?» Et il lui dira un peu plus loin, il dira à ses disciples, « Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » Et il est primordial de considérer que Jésus est le Fils de Dieu et qu'à ce titre, il nous révèle le Père. Sans la divinité de Christ, il n'est pas possible de révéler, de connaître le Père. Aucun homme sur la terre ne peut nous faire connaître le Père comme Jésus nous l'a fait connaître. D'ailleurs, dans sa première épître, au chapitre 2, verset 23, Jean dira encore, « Tout homme qui nie que Jésus est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. Il n'est pas possible de connaître le Père sans Jésus-Christ, Fils de Dieu. Celui qui nie que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, nous dit Jean, connaît aussi le Père. Il est important de considérer que le Fils et le Père sont intimement liés. Celui qui connaît Jésus, Fils de Dieu, connaît alors le Père. Jean dira, c'est pourquoi tenez-vous soigneusement à l'enseignement que vous avez reçu dès le commencement. C'est ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi unis au Fils et au Père. » Et Jean répétera cela encore dans sa deuxième épître. « Celui qui reste attaché à cet enseignement est uni au Père comme au Fils. » Nous avons besoin de la pleine divinité de Christ afin d'être aussi, de considérer que nous sommes aussi unis au Père par lui. Jésus-Christ était de condition divine et il est venu semblable à un homme en tant que serviteur pour obéir et nous sauver à la croix. Alors ce matin, dans ce message et avec celui du mois de juillet, il me semblait important de rappeler ce que Wayne Grudem nous invite à considérer, c'est l'importance de la personne de Christ. Alors bien évidemment, et je le répète, il n'était pas question entre juillet et août d'aborder toute la problématique de qui est Christ. Christ, c'est un sujet extrêmement vaste, puissant. Et il y a certainement des points que je n'ai pas abordés. Mais ces deux aspects-là sont primordiaux. Cela doit nous aider à regarder toujours davantage en celui en qui tout a été remis, qui peut tout dans nos vies. Si Jésus-Christ est pleinement Dieu et pleinement homme, qu'est-ce qui peut lui échapper ? Qu'est-ce qu'il ne peut pas accomplir ? Qu'est-ce que Jésus ne peut pas accomplir dans votre vie ? qu'est-ce qu'il ne peut pas accomplir dans ta vie ? Alors, je dirais, est-ce qu'il y a encore des choses que vous n'avez pas remis au Seigneur, à Jésus-Christ, qui est pleinement Dieu, qui est tout-puissant pour recevoir ? Qu'est-ce qui nous retient encore de venir à lui ? Si Dieu a envoyé son Fils, pleinement homme et pleinement Dieu, qu'est-ce qui nous retient encore de venir à lui ? Il peut tout, il peut changer votre vie. Je vous laisse avec ces questions ce matin.